Juan le Bras, Les noces noires de Guernaham, 1901. Le pardon finissait. L'ombre hâtive des nuits d'octobre était descendue sur la petite bourgade bretonne, dénouant les danses, dispersant les couples le long des coupes routes crépusculaires à travers le silence des campagnes endormies. Emmanuel prit Jean, dont le cœur n'avait pas encore parlé et qui n'avait pas de douce à ramener chez elle, demeura un instant sur la place à regarder l'homme aux chansons rassembler ses feuilles volantes, puis après une courte discussion avec lui-même, il s'achemina vers l'auberge. Il se sentait triste, la solitude sans doute, peut-être aussi une raison plus intime, certains malaises d'âme qui depuis quelque temps assombrissaient sa pensée, ne lui permettaient plus de jouir de la vie béatement, comme par le passé. En vain s'était-il efforcé de réagir contre ce singulier état d'esprit dont sa cervelle obscure de paysan ne parvenait même pas à débrouiller les criscos. Qu'est-ce que donc qui avait pu altérer ainsi en lui peu à peu la belle source de joie de ses 25 ans? Il s'était rendu au pardon de Saint-Sauveur avec l'espoir d'y rencontrer une somnambule, une voyante assez lucide pour l'éclairer sur son cas et connaître sa peine, comme dit le proverbe, c'est déjà la moitié de la guérison. La vieille, Sibylle, qu'il était allé consulter dans son chariot, là-bas, derrière les fontaines, n'avait su que lui débiter des niaiseries, des fariboles, les mêmes exactement qu'elle avait compté à 20 autres, comme de lui assurer, par exemple, qu'il se languissait d'amour et que seule une brune aurait la vertu de dissiper son mal. Amoureux, lui, ah bien! Elle pouvait se flatter de lire dans les cœurs la somnambule. Jamais encore il n'avait regardé une femme autrement que pour le plaisir du temps qu'il était soldat. C'était si vrai que, à Guernonham, où de domestique principal il était passé chef de labour depuis la mort du maître, les servantes, blessées de ce qui ne faisait aucune attention à leur agacerie, l'avait surnommé Prigent le dédaigneux. Non qu'il professa pour le sexe le dédain qu'on lui attribuait, mais il n'avait pas les idées tournées de ce côté-là, voilà tout. Il avait bien assez à s'occuper par ailleurs, un domaine d'environ 30 journaux de terres arables à tenir en état, un personnel volontiers indocile, sinon récalcitrant, à manier et à conduire, tout cela dans une maison où il n'était lui-même qu'un subalterne et sous la direction d'une jeune veuve sans expérience, à peine émancipée du couvent par quelques mois d'un mariage qui n'avait été pour elle qu'une agonie, qu'une passion, et dont elle n'avait pas fini de se remettre. Pauvre René-Anne, si frêle, si menue, et comme on dit à la campagne, si demoiselle, comment son père, le vieux Buyomard, avait-il pu la laisser épouser ce Constant d'Agorne, cette brute? C'est à Lyon-sur-Rhône, où il était pour lors en garnison, qu'Emmanuel avait appris les noces de sa parente, car elle était un peu sa cousine à la mode de Bretagne, cette riche héritière des Prigent et les Guyomard ayant mêlé leur sang autrefois quand les ancêtres dont ils étaient issus faisaient encore figure parmi les notables de la paroisse. « Oh la malheureuse !» s'était-il écrié en repliant la lettre qui lui avait apporté la nouvelle. Il ne connaissait que trop le Dagorne pour s'être rencontré avec lui en maintes occasions, aux charrois d'automne, aux assemblées de printemps. Et tout de suite, sa première pensée avait été pour plaindre la délicate Renéanne de tomber entre les mains de ce rustre, de cette espèce d'Hercule paysan, qui tenait néanmoins de l'homme que du taureau dont il avait la force, les colères aveugles et aussi la stupidité. Jamais toutefois il n'eût osé concevoir, même d'un tel être, les abominables violences auxquelles il dut assister à Guernaham. Le hasard avait voulu qu'à son retour du service, la place de valet de charrue fut vacante chez Constant d'Agorn. Personne n'y reste, affirmait-on de toutes parts aux soldats libérés. Mieux vaut se faire ramasseur de crottins sur les routes que d'accepter de vivre dans un pareil enfer. Ce fut peut-être la raison qui, plus encore que la nécessité d'assurer sa subsistance, décida Emmanuel Prigent à se présenter, et dès qu'il eut exposé le but de sa démarche, il crut lire une sorte de gratitude attendrie dans le regard que fixa sur lui Renéanne. Quant à Dagorn, dont la laine empestait l'alcool, il marqua une satisfaite goguenarde de voir s'offrir chez lui, comme domestique, un jeune homme de sa parenté. « Top là » bégaya-t-il d'une voix prateuse. Et pour assurer le pacte, il força le nouveau charrueur de vider avec lui une bouteille de genièvre aux trois quarts bu depuis le matin. Car les dernières lueurs d'une intelligence qui n'avait jamais brillé que d'une flamme incertaine, il achevait de les perdre dans l'ivrognerie, le misérable. Et d'autres vices lui étaient venus, des vices abjects, innommables, qui n'étaient plus d'un chrétien, mais d'une bête. Oh, ce premier hiver à Guernaham! Emmanuel en avait gardé une impression sinistre. Il couchait, selon l'usage, dans l'écurie avec les chevaux. Parfois, très avant dans la nuit, le matin déjà proche, il entendait Dagorn entrer en s'épaulant au mur dans le logis d'habitation que ses maîtres occupaient seuls. Et de l'intérieur de la cuisine, où était leur lit, le lit héréditaire à gauche de l'âtre, s'échappaient soudain des jurements, des vociférations obscènes, suivies d'un bruit sourd de piétinements et de coups. Alors, entre ses draps de toile bise, tout son corps bouillait. Il brûlait d'envie de se lever, de courir au monstre, de l'empoigner à la nuque, de lui ployer la tête à terre, comme on fait pour les bœufs affolés. Mais il n'osait, à cause de Renéanne. Il sentait confusément que son intervention, en ces occurrences pénibles, l'eût froissé au plus profond de ses pudeurs de femme. Il n'avait pas été sans remarquer de quelle réserve chaque jour, plus hautaine, elle s'enveloppait dans son martyre. Ne poussait-elle pas l'héroïsme jusqu'à perdre devant son père la défense de son mari, puisqu'à feindre au regard du monde des gestes d'une tendresse câline pour ce bourreau bestial et répugnant. Une nuit, cependant, par extraordinaire, elle avait appelé Emmanuel à son aide. Ivre-mort, le Dagorn avait buté contre la marge du seuil et s'était allongé à la renverse, la face baignant à demi dans le purin de la cour. Trop faible pour soulever cette masse, Renéanne vint heurter à lui de la crèche, hélas, doucement, son cousin. À eux deux, ils avaient transporté l'homme dans le lit et lavé ses souillures immondes. Puis après quelques paroles de remerciement, la jeune femme, en congédiant Emmanuel, avait ajouté: Oh, inutile d'ébruiter la chose, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs la première fois que cela arrive. D'ordinaire, il tient mieux la boisson. Cette chute avait dû casser quelques ressorts vitaux dans la puissante organisation de Constant Lagarne. À partir de ce moment, on le vit décliner de jour en jour. Ses muscles de fer s'amollirent, sa chair énorme coula, des taches de lèpre cadavérique se montrèrent çà et là sur sa peau, comme si le travail de la mort était commencé. Il ne parut plus au champ, renonça même à se traîner au cabaret d'alentour. Mais au lieu de s'éteindre, sa fureur de boire s'était exaspérée. Il s'imaginait puiser dans les bouteilles un élixir de vie capable de réparer les forces qu'il abandonnait. Il avait des regards, des gestes de fou, des luxures étranges, nées de l'alcool, hantaient son cerveau. On était au mois tiède dans la saison des foins. Le débraillement des faneuses qui rentraient en sueur, leurs chemises de chanvre collées à leurs seins, excitaient chez lui des rires convulsifs, faisaient passer dans ses yeux des désirs effrayants de damnés, et le soir, après la clôture des portes, les scènes de ménage recommençait de plus belle. Mais il ne crèvera pas avant de l'avoir tué, se disait le charter en prêtant l'oreille à ce sabbat, à cette horrible messe noire dont René Arne était l'hostie douloureuse, farouchement résignée. S'il avait bondi à son secours malgré elle certains soirs de juillet, on l'eût assurément couchée morte le lendemain dans le cimetière de la paroisse. Il frémissait encore d'indignation à ce souvenir, et aussi d'une autre sorte de trouble qui ne s'expliquait pas. C'était un dimanche, il s'était attardé au bourg à jouer aux quilles. En traversant l'aire pour gagner son étable, il vit la fenêtre de la cuisine éclairée. Par instant, une ombre passait avec des gesticulations bizarres. Une curiosité le prit, une irrésistible envie de savoir. Il s'approcha de la pointe des pieds, appuya son front à la vitre et demeura quelques minutes hébété, refusant d'en croire ses yeux, figés comme devant le spectacle d'une abomination de l'enfer. Cette brute satanique de Dagorne allait et venait d'un bout à l'autre de la pièce, un grand fouet de charroi dans sa main droite, et tordu comme une longe autour de son poignet gauche, la brune chevelure de René Anne, dont le corps presque entièrement dévêtu, traînait sur les dalles, tout strié par les coups de fouet d'un réseau de murmures sanglants et de marbrures sanguinolentes. Briser un carreau, faire sauter l'espagnolette intérieure, franchir la fenêtre et la table, terrasser le monstre abasourdi par la brusquerie de l'attaque, ce fut pour Emmanuel Brigand l'affaire de 20 secondes. Avec la courroie du fouet, il garrotta solidement les jambes de l'homme. Toi, murmura-t-il, d'ici quelque temps, tu ne bougeras plus. Mais quand il fut pour soulever le corps évanoui de la jeune femme, il hésita, perdit la tête, ne sut que chanouiller auprès d'elle, et l'appelait tout bas d'une voix peureuse d'une voix qui tremblait. René Anne, sa gorge quasi enfantine était découverte. Laissait voir un coin de chair blanche d'une pâleur nacrée. Il se dépouilla de sa veste et l'étendit religieusement sur elle. Dans ce mouvement, ses doigts la frôlèrent. Elle rouvrit les yeux. Alors lui, par crainte qu'elle ne lui en sût mauvais gré d'être là et de l'avoir surprise, en ce désordre, il s'enfuit. Ni le lendemain, ni jamais depuis, René Anne n'avait fait une allusion à ce qui avait pu se passer. Quant au Dagorn, il eût été fort en peine de manifester un ressentiment quelconque. Sa fureur d'avoir été mis par son domestique, momentanément hors d'état de nuire, lui était montée à la tête en un transport de sang. Et du coup, pensée, mémoire, l'usage même de la parole, tout était parti. Il avait pourtant vécu des semaines encore, soigné, veillé par sa femme, tandis que sa propre parenté faisait allumer des cierges devant Saint-Apé du pour lui obtenir un prompt trépas. La délivrance était enfin venue. Un jour d'août, comme on achevait de battre la moisson. Et ça avait été un soulagement universel, qui se fût peut-être traduit d'une façon peu décente, n'eût été le respect d'un chacun pour la tristesse sans affectation de René Anne, la nouvelle veuve. Le soir même des obsèques, celle-ci avait pris à part Emmanuel Prigent. « Tu es un peu de notre famille, lui dit-elle, et je n'ai pas été sans voir que tu avais de l'intérêt pour nos champs. Veux-tu me continuer tes services? Tu auras la surveillance de la terre et les gages seront doublés. » Il avait fait oui de la tête, sans pouvoir proférer une parole de remerciement, dans l'émotion de la surprise et de sa joie. Car il s'était attaché à Guernham, où personne ne restait. Et tout lui en était devenu cher, la maison, les granges, les étables, les labours, jusqu'aux cressonnières des douves dans les chemins creux, jusqu'aux semis de landes sur le talus. René Anne l'eût prié, ma foi, d'y demeurer pour rien, fût-ce en qualité de gardeur de vache qu'il eût accepté. Or, voici que depuis 2 mois, il y commandait en maître sur les hommes et sur les harnais. Les débuts, certes, avaient été pénibles. Les autres domestiques s'étaient obstinés longtemps à ne considérer en lui qu'un de leurs pères, discutant ses ordres, se refusant même à les accomplir. Mais il avait fini par dompter les plus rebelles. Si l'on grommelait parfois encore quand il avait le dos tourné, du moins on obéissait. De l'avis du vieux Guillemard, le père de la veuve, qui faisait une apparition chez elle de temps à autre, jamais les choses n'avaient aussi bien marché à Guernham. René Anne, de son côté, se montrait ravi. Bref, il n'avait de toute manière qu'à se louer de sa condition présente. Pourquoi donc cette amertume qui insensiblement s'était levée en lui, gagnant toute l'âme et voilant d'une tristesse subtile les pacifiques images de son bonheur? « Cela va toujours au manoir ?» demanda Josan Trépoux, l'aubergiste, lorsqu'il aperçut dans le cadre de la porte la haute silhouette élancée du charreur. « Toujours, oui, » répondit Emmanuel d'une voix distraite. Il promena son regard dans la salle, cherchant quelque figure de connaissance parmi les groupes de buveurs attablés. Mais les jeunes hommes de son âge étaient tous partis reconduire leur danseuse à la maison familiale, ainsi qu'il est de mode en Bretagne les soirs de pardon. Il n'y avait là que des étrangers, des gens de paroisse avoisinante, venus au pèlerinage à Saint-Sauveur, et qui, leurs ablutions terminées à la fontaine, s'arrosaient maintenant à l'intérieur du corps, selon le rite, tandis que les montures bridées, scellées, piaffaient d'impatience dans la cour. Et Emmanuel allait s'asseoir à l'écart, quand au fond de la pièce, un paysan qui n'avait pas remarqué l'interpella. « Ça, dit l'homme, t'as donc pris de l'orgueil en prenant garde que tu daignes plus saluer ton ancien. » Le charreur riposta en riant. Dame, tu me tournais le dos, Jean Marzin, et ton nom n'est pas écrit sur le coffre de collet de ta veste. Ce Jean Marzin était précisément le valet de ferme qu'il avait remplacé à Guermaham. Ils rapprochèrent leurs tabourets et se mirent à deviner à la façon bretonne par phrases courtes interrompues de longs silences. « Et où as-tu gagé pour l'instant ?» demanda Emmanuel. « Oh, 3 lieues d'ici, dans la montagne, chez les Monguy de Rosivio. » Hey, « Tout de même, t'as pas voulu manquer le pardon de Saint-Sauveur. »« Oh non, c'est pas moi, c'est mon jeune maître. »« Il m'a dit, sur les 2 heures, cet après-midi, d'atteler le char à banc. »« Mais nous n'avons pas l'orgueil en route, je t'assure, mais il était pressé d'arriver. »« Il n'est pas pressé de repartir, en revanche. »« L'Angélus du soir est sonné et je l'attends encore. » Il faut bien qu'on s'acquitte de toutes ces dévotions, mon cher. Oh, des dévotions à Notre-Dame du mariage. Et sais-tu dans quelle église, au fait, tu l'as peut-être rencontrée? Moi, où ça? Ben, Guernam, donc. Emmanuel se sentit devenir tout pâle. On lui portait un coup de poing entre les 2 yeux en plein visage qui n'eût pas éprouvé une commotion plus violente. L'autre, attentif seulement à bourrer sa pipe, continua d'un ton calme. « Bon, je prévoyais cela. Depuis les funérailles de Dagorde, il était guère de jour qu'il ne m'interrogea sur Guernaham, sur la contenance du domaine, sur la valeur des terres et celle du bétail. Quand, au carrefour des 5 croix, il a tiré sur la bride de la jument pour la lancer dans la descente de Saint-Sauveur, me suis dit, oh, ça y est, il va nouer commerce avec la veuve. Il faut croire que sa conversation n'aura point paru déplaisante, puisqu'elle dure encore la nuit tombée. « Qu'est-ce que t'en penses, camarade ?»« Oh, rien. Sinon que René Anne n'est peut-être pas assez guérie de son premier mari pour avoir tant hâte d'en prendre un accord, un deuxième, un second. »« Oh, le Mingui est beau garçon, et comme il a été aux écoles de la ville, il sait la manière de parler aux femmes. Mais ça te vexe donc que tu te lèves. » Le charreur, un peu nerveux, venait de vider son verre d'un trait. Marzin poursuivit. « Oh, certes, tu as tout à gagner à ce que le veuvage de ta maîtresse ne finisse jamais. Il est plus agréable de commander que d'obéir. René Anne a 22 ans et Guernham, si j'ai bonne mémoire, compte Soublé, Soutaille et Soulanne, plus de 50 journaux. Si c'est pas Mingui, ce sera un autre. Soit, conclut Emmanuel. En attendant, j'ai mes bêtes à soigner. Bonsoir, Marzin. Bonne chance, prit Jean. C'était dehors une douce nuit d'arrière-saison, ouatée de petites nues floconneuses, avec des taux de ciel d'un bleu d'ardoise où clignotaient des lueurs d'étoiles. Le charmeur traversa rapidement la place, contourna le mur du cimetière et les dernières maisons de la bourgade dépassées, s'arrêta brusquement pour respirer avec force, humant l'air de tous côtés, comme indécis sur la direction à prendre. Le chemin de Guernham s'amorçait à droite, entre deux hauts talus au-dessus desquels s'arrondissaient en voûte des frondaisons encore touffues de chênes nains et de coudriers. C'est par là qu'il rentrait d'habitude pour être plus vite rendu à la ferme. Mais cette fois, au moment de s'y engager, le cœur lui faillit. Il songea qu'il allait peut-être y croiser avec le fils de Roseviliou, et cette idée lui fut pénible. Il se sentait une colère sourde contre cet homme dont quelques minutes plus tôt il soupçonnait à peine l'existence. C'est étrange, se dit-il. Je n'ai pas bu de quoi troubler la cervelle d'un oiseau. J'ai pourtant comme une fureur d'eau-de-vie dans les veines. Le mieux de faire le grand tour par les champs. La fraîcheur me calmera. Il poussa plus avant sur la route vicinale de Saint-Sauveur à Lannion, jusqu'à un échalier de pierre par où l'on pénétrait dans les cultures. Ses pieds baignèrent dans l'humidité des gazons. Des chanvres qu'on avait laissées en terre pour porter graines lui frôlèrent le visage de leur rosée. Peu à peu, la marche détendit ses nerfs et la vertu apaisante des choses nocturnes agit sur sa fièvre à la façon d'un baume. Ses pensées se tassèrent en lui comme les tranquilles nuées d'argent là-haut dans la profondeur du ciel automnal, et tout en cheminant, il se raisonna. Mais pourquoi donc en voudrait-il au Mengi? Est-ce que ce n'était pas le droit de chacun de fréquenter Guernaham? Il y faudrait peut-être sa permission maintenant. Mais qu'avait-il dans la maison qui fut à lui? C'est hard et voilà tout. Un maigre baluchon de domestique qu'il avait apporté à la main, noué dans un mouchoir et qu'il remporterait de même. Un jour à venir, quand on n'aurait plus besoin de ses services. Alors, mais de quoi se mêlait-il? Bah, si c'est pas Mingui, ce sera un autre. Cette phrase de Jean Marzin lui frappa de nouveau l'oreille, comme chuchotée par les esprits invisibles de la nuit. Il se la répéta mentalement à plusieurs reprises. Oh, sans animosité, il n'en avait plus contre personne, mais avec un sentiment si douloureux qu'il lui sembla que cela lui faisait mal dans tout l'être. Un autre, un autre. C'était pourtant certain que tôt ou tard René Anne se remarierait avec un autre. Cet autre ne serait pas lui. Du coup, il vit clair dans l'inexplicable tristesse qui, depuis des semaines, depuis des mois, lui assombrissait l'âme. Une sorte de percée lumineuse se fit en lui, pareille à ces puits de firmament constellés d'astres qui s'ouvraient entre les rebords immobiles des nuages au-dessus de sa tête. Ce fut comme le jaillissement impétueux d'une eau souterraine, d'une source cachée. la somnambule d'auprès de la fontaine avait dit juste, il aimait. Guernam, les labours, les bêtes, qui devint ce lot de n'importe qui, ça lui était bien égal. Mais René Anne, si on le privait d'elle, pof, il n'avait plus qu'à mourir. Par bonheur, il avait atteint l'air de la ferme, car il n'aurait plus eu la force d'aller. Une meule de foin était là, creusée à sa base en forme de grotte, à cause des brassées de Provence qu'on en tirait journellement pour les chevaux. Emmanuel s'y blottit et, enfoui dans la litière odorante, se mit à sangloter désespérément, comme un orphelin sans demeure, comme un pauvre enfant perdu. Vous seriez mieux dans votre lit pour couver le vin du pardon, disait une voix de femme un peu tremblante, avec quelque chose dans l'accent de sévère et de contristé tout ensemble. Le charreur écarta l'énorme chien de garde qui lui promenait la langue sur la face, léchant ses larmes, secoua le foin qui était accroché à ses vêtements et se tint debout devant René Anne. Elle était éclairée comme d'un nimbe par la lune, dont le disque bleuâtre commençait à dépasser le cime des pins plantés en bordure de l'air pour la protéger des vents d'est. Droite et mince en sa longue robe noire et sous son grand châle de veuve, elle reprit. Quand j'ai vu que la nuit s'avançait, j'ai craint qu'il ne vous fût arrivé malheur. Alors j'ai détaché Turc et je lui ai dit « Cherche !» Il y a plus de 2 heures que votre soupe vous attend auprès du feu. Vous êtes comme les autres, paraît-il. Boire vous empêche d'avoir faim. « Oh, vous vous trompez, René Anne, » répondit Emmanuel, en rompant lui aussi à l'exemple de sa cousine, avec le tutoiement qui leur était habituel, et que l'usage autorise du reste en Bretagne entre gens de toutes conditions. Non, c'est certainement pas ce que j'ai bu à l'auberge qui aurait pu me couper l'appétit. Elle eut un léger haussement d'épaule, puis d'un ton quelque peu adouci. Mais viens donc, allez, tu mangeras si tu veux. En tout cas, avant que tu te couches, j'ai à te consulter. Elle se dirigea vers la ferme où Emmanuel ne tarda pas à la rejoindre, après qu'il eut ramené Turc au chenil, situé de l'autre côté des bâtiments contre le porche de la cour principale. Les sentiments les plus divers et les plus confus se disputaient l'âme du charrueur. La désobligeante et si injuste supposition de René Anne l'avait blessé au vif. Ivre, elle l'avait cru ivre. Et cela tandis que navré d'amour. Mais non, non, ce n'était pas le moment de la traiter de la sorte. Mais tout aussitôt, il réfléchissait que, faible encore et de santé si débile, elle avait eu la bonté de veiller pour l'attendre, de lui garder au feu sa soupe chaude, et finalement de s'inquiéter de lui jusqu'à se mettre à sa recherche, sans autre escorte que le vieux chien, malgré l'heure peu rassurante, malgré la nuit. Toute sa rancune fondait à cette pensée. Restait néanmoins un point noir, cette consultation. C'était donc bien pressé et bien grave que René Anne tenait à s'en expliquer sur le champ. Qu'allait-elle lui demander, lui apprendre? Ses accordailles, peut-être, avec le fils de Roselieu. Bon, il en avait une sueur froide, une sueur d'angoisse, au point qu'il dut s'ébauger le front du revers de sa manche avant d'attaquer les cuillères de potage fumant que la veuve venait de déposer devant lui sur la table. Et cependant, elle, assise sur le banc de son lit clos, près de l'âtre, enveloppait de cendres les tisons, de façon que la braise couvât jusqu'au lendemain et qu'on eût au lever qu'en ravivait la flamme. Après quelques minutes d'un silence troublé seulement par les grands coups sourds du balancier de l'horloge, s'étant aperçue qu'Emmanuel ne mangeait plus, elle se rapprocha. « C'est ta faute, dit-elle, si j'ai porté sur toi un mauvais jugement. Une autre fois, épargne-moi ces pleurs. Quelle idée aussi d'aller te fourrer dans le foin en cette saison. J'ai su que tu avais du monde, j'ai craint d'être un gêneur, de tomber mal à propos. » Elle repartit du ton le plus naturel. « En quoi un gêneur ? Mais est-ce que tu n'es pas pour moi comme si tu étais de la maison ? Et moi qui priais l'aîné des Manguis de patienter jusqu'à ton retour, sûr que tu rentrerais au brin de la nuit. Car c'est tout le monde que j'ai vu, ce Manguis. Il paraît que leur froment n'a presque pas donné de paille cette année dans la montagne. Il en voudrait quelques milliers et nous céderait une paire de bœufs en échange de leurs bœufs de là-haut, petits et trapus. Moi, j'ai répondu que je ne pouvais rien décider sans toi, que ces sortes de choses te regardaient. Et comme tu n'arrivais pas, les étoiles déjà claires, il a pris congé, et non sans beaucoup d'ennui. Il a un grand défaut de cette paille et souhaite de t'avoir dès demain, si nous commençons au marché. Qu'en dis-tu, Emmanuel ? Bon, je dis qu'au prix où sont les bœufs, t'aurais tort de refuser le cadeau de Mingui. Le cadeau ? Fit la jeune femme dont les joues pâles se colorèrent d'une rougeur subite. Mais je n'ai, s'il te plaît, de cadeau à recevoir, ni du fils Mingui, ni de personne. Il n'y a pas d'autre nom pour désigner une offre aussi invraisemblable, prononça le charveur. Ou bien il faut que l'aîné des Rouvillons soit un bonnet. Son irritation de tantôt lui était revenue et vibrait malgré lui dans sa voix. René Anne fixa sur lui ses beaux yeux graves. « Mais tu m'étonnes, dit-elle. Est-ce que tu subirais les influences de la lune par hasard ? J'ignore ce que tu peux avoir contre Jérôme Mingui. Je l'ai trouvé, quant à moi, d'une tenue parfaite et d'une conversation fort agréable. C'est au moins un homme bien appris. On voit qu'il a reçu de l'instruction et qu'il lui en est resté quelque chose. » C'est pas pour dire, Emmanuel, prit Jean, mais il serait à souhaiter qu'il y eût dans nos campagnes beaucoup de paysans comme celui-là. Mais c'est assez pour toi qu'il y en ait un, ricana le laboureur. Chacune des phrases de René Anne avait pénétré en lui jusqu'aux fibres profondes, irritant sa plaie secrète, son amour douloureux et saignant. Et il ajouta, le plus posément qu'il put, avec un calme affecté, « Tu voudras bien, je pense, me garder cet hiver encore à Guernaham. L'hiver est une mauvaise saison pour se placer. D'ailleurs, la loi ne te permet pas de te remarier avant la Pentecôte. » Rencogné dans l'embrasure de la fenêtre, René Anne écoutait son cousin sans comprendre. À quoi tout cela rimait-il ? Les dernières paroles enfin l'éclairèrent. Une stupeur attristée se peignit sur son visage et de larmes tremblèrent à la pointe de ses grands cils. Mais elle se ressaisit aussi vite et d'un violent effort maîtrisa son émotion. « Emmanuel, déclara-t-elle d'une voix ferme, quand nous avons fait nos conventions, je t'ai dit, tu auras tout pouvoir sur les hommes et sur les travaux des champs. Mais il ne me souvenait pas que je t'ai chargé du soin de ma conduite. Mêle-toi donc de ce qui te regarde. Je t'ai choisi pour être mon chef de culture, donc pour être mon confesseur. Je te croyais plus de sens et un cœur moins brutal. Il m'avait semblé remarquer en toi une générosité native qui t'élevait à mes yeux au-dessus de ton état. Mais il y a décidément un savoir-vivre qui ne s'apprend ni à la caserne ni au labour. Tu m'as outragé grossièrement. À cause de ton ignorance des usages, je te pardonne. Seulement, tiens-toi pour averti. Une autre fois, je ne te pardonnerai plus. Allez, maintenant, va te coucher. J'entends que demain, au chant du coq, il y a 4 charretées de paille en route pour Roseville. Le charveur n'essaya pas de répliquer. Il avait la tête brûlante et vide, la gorge serrée, la vue si trouble qu'il n'aperçut même pas la lanterne allumée que René-Anne lui tendait. Il sortit de la cuisine en chancelant, suivit le couloir à tâtons et la porte tirée derrière lui, se laissa tomber sur les marches extérieures. Il n'avait plus ni sentiment ni pensée. C'était comme s'il eût assisté, mort lui-même, à la mort, à la fin de tout. La nuit muette, la mélancolique nuit d'automne, où fermentaient de vagues odeurs de moisissure et de décomposition, lui apparut comme un sépulcre immense, et les astres là-haut, avec leurs dures et froides lueurs d'acier, lui firent l'effet de clous épars dans le couvercle d'un vaste cercueil. Soudain, de l'autre côté de la muraille, dans la maison, une voix douce commença. « Manoué, migraine fermamante !» C'était René-Anne qui récitait ses grâces avant de se mettre au lit. D'une lèvre machinale, il répondit « Amen !» Puis à travers le tapis de fougères séchées qui jonchait la cour, il gagna l'écurie. La Saint-Sauveur clôt l'ère des pardons dans cette région fromentale du Haut-Trégor qui fait lisière entre les dernières pentes des monts d'Arrée et les plateaux ondulés du pays de la mer. Passé la Saint-Sauveur, adieu les réjouissances. Les mois noirs sont proches. Dans les fermes aisées, les domestiques les voient venir non seulement sans appréhension, mais avec un secret plaisir. L'hiver est pour eux le temps du repos. S'ils coupent court aux divertissements publics, aux assemblées en plein air, il est aussi le père des journées brèves et des longues soirées paisibles au coin du feu. Les semailles terminées, à vrai dire, on ne travaille plus, on bricole. Quelques talus à repérer avant l'époque des grandes pluies, les routes à empierrer, les chaumes des toits à consolider contre les rafales, le lin sec à broyer dans la grange, c'est à peu près toute la besogne depuis les glas de la commémoration des défunts jusqu'à la procession des cierges à la chandeleur. La nuit, à chacun de dormir s'il lui plaît, c'est 10 heures d'affilée. Dès la tombée des ténèbres, la soupe est sur la table, ou bien la chaudronnée de bouillie sur son trépied de bois au milieu de la cuisine. Après le repas, la prière en commun, ainsi qu'aux vieux âges patriarcaux. Puis, qui veut se retirer, et le plus souvent, on préfère veiller avec les maîtres. Tels sont le charme de la vie rustique en Bretagne, s'éveiller est la manifestation peut-être la plus significative de l'antique esprit des clans. Il n'y a pas en effet que les gens de la maison à y prendre part. Toute demeure de quelques conséquences devient un lieu de rendez-vous traditionnel pour les paysans moins fortunés d'alentour. On s'y achemine par bandes de tout le parage. Les hommes apportent du chanvre effibré, les femmes arrivent leur fuseau à la main et la quenouille attachée par un ruban sous l'aisselle. Chacun s'installe où il trouve place. Quiconque se présente est le bien accueilli. Il n'y a d'exception pour personne, pas même pour les mendiants en quête d'un gîte, ni pour la race aventureuse des colporteurs de chansons ou des marchands d'images. À tous, la ménagère dit, sur un ton en quelque sorte sacramentel, « Prenez un escabeau et approchez-vous du feu. » Ce sont de véritables assises nocturnes et qui ne laissent pas d'avoir une certaine solennité. Nul ne parle qu'à son tour et s'il y est invité par le maître du logis. Celui-ci préside avec une simplicité débonnaire du fond de son fauteuil de chêne massif, érigé comme un trône à l'un des angles du foyer. De temps à autre, durant les intervalles de silence où l'on bourre les pipes, il cligne de l'œil à sa femme pour qu'elle fasse circuler, dans l'écuelle de terre jaune, le cidre chaud, délieur de langue. L'hiver d'avant, à Guernaham, on avait guéri le cœur à veiller. La présence de Dragon, les soirs où il ne s'oubliait pas dans les auberges mal famées des environs, était pour toute une cause de gêne, sinon d'épouvante. On tremblait sans cesse qu'il ne se livrât à quelque excentricité dangereuse. N'avait-il pas eu l'idée, une fois, par manière de plaisanterie, de mettre le feu à la veste en peau de mouton du pâtre? Absent, il terrorisait encore les âmes. C'est à peine si l'on osait respirer, et dans la crainte de le voir entrer tout à coup, les yeux hagards, le bâton levé en proie à toutes les démences de l'alcool. D'ailleurs, n'aurait-on pas eu cette angoisse, la pâle et silencieuse figure de René Anne, abîmée en d'amères songeries, eût suffi à bannir des veillées de Garnham toute expansion et toute joie. L'ombre de la tristesse gagnait autour d'elle tous les visages, et l'on baissait la voix pour échanger de rares propos, comme dans la chambre d'un agonisant ou d'un mort. Il n'en allait plus de même cette année, Dieu merci. Le stupide et monstrueux Dagorn gisait à 7 heures dans le cimetière du bourg, enfoui à plusieurs pieds de profondeur, sous une énorme dalle de granit bleu, dont le tailleur de pierre qu'il avait sculpté avait dit en la cimentant « Du diable si celle-ci ne le maintient pas en propos jamais !» Quant à la veuve, si elle avait encore un peu son air de fleur qu'un sabot de rustre a froissé, on la sentait toutefois redressée à demi, riche déjà d'une sève nouvelle et ne demandant qu'à s'épanouir. Dès qu'on sut dans le quartier que l'éveil d'hiver était commencé à Guernham, les gens accoururent, et non seulement ceux du voisinage, mais quantité d'autres, des points les plus éloignés. Beaucoup de jeunes hommes, dans le nombre, des fils de bonnes familles paysannes, déserteurs de leur propre mâchoire. Cela, les servantes se faisaient un malin plaisir de les taquiner à mon couvert. C'est donc que notre chandelle éclaire mieux, s'informait-elle, ou qui fait plus chaud à notre foyer. Personne au reste n'ignorait qu'il venait pour les beaux yeux de la veuve, avec le secret espoir qu'elle finirait bien un jour ou l'autre par se décider en faveur de l'un d'eux. Elle les recevait le plus obligeamment du monde, en maîtresse de maison qui connaissait devoir, mais sans jamais se départir à leur endroit de ces façons de demoiselles un peu fières, qui excluaient par avance toute familiarité. Cette réserve, loin de les mécontenter, stimula leurs ailes. Ils n'en furent que plus assidus. La patience est une vertu bretonne. Puis, quoi qu'il advînt, c'était toujours quelques bonnes heures à passer. Le lieu était confortable, la compagnie récréative, et le cidre de Garnham, réputé à juste titre pour être le meilleur du canton. Seul, Emmanuel Prigent s'abstint de paraître à ces réunions. Pourquoi ? Il en avait donné à René Anne une raison assez médiocre. C'était peu de jours après la fameuse nuit du pardon de Saint-Sauveur. Des jours pendant lesquels ils s'étaient renfermés l'un vis-à-vis de l'autre, lui dans un mutisme sombre, elle dans une attitude distante et presque glacée. Brusquement, un samedi soir, le premier samedi de novembre, comme il rentrait avec les chevaux d'une lande qu'il avait entrepris de défricher pour occuper son hiver, il avait retrouvé René Anne qui le guettait adossé, malgré la fraîcheur, à l'un des ormes de l'avenue. « Emmanuel, descends, j'ai besoin de te parler. » Il avait sauté à bas de la jument qu'il montait et ils avaient cheminé côte à côte sous les grands arbres noirs, d'où se détachaient au moindre souffle du vent des tourbillons de feuilles flétries. « Eh bien voici, bien que je ne sois guère d'humeur à me complaire en des sociétés nombreuses, je sais ce que mon rang m'impose, et qu'il y a de coutumes établies auxquelles mon deuil même ne m'autorise pas à me dérober. La porte de Garnham sera donc ouverte dès lundi à quiconque voudra veiller. » Seulement, je ne suis pas encore très en état de faire les honneurs de chez moi comme il conviendrait. Alors j'ai pensé que si je t'en priais, tu m'y aiderais peut-être. L'année dernière, sans toi, on serait mort d'ennui. Et puis, il est bon qu'il y ait un homme, quelqu'un d'écoute et comme toi, capable de diriger la conversation, et s'il est nécessaire, de la retenir, quelqu'un enfin qui... Bref, je te demande, tant que duront s'éveiller, d'occuper en face de moi, à droite de l'âtre, le siège vacant du maître qui n'est plus. Contrairement à l'attente de la jeune femme, qui ne doutait point qu'une telle demande, surtout après ce qui s'était passé entre eux, ne le flatta dans son amour-propre, le charreur avait répondu en hochant la tête « Je regrette beaucoup, René Anne, mais je ne puis accepter. Je n'assisterai pas aux veillées de Garnham cet hiver. »« Ah, mais te la bouderie longue, Emmanuel. »« Non, je ne te boude pas. Je n'ai contre toi aucun mauvais sentiment. Aucun, en vérité, » répéta-t-il avec un accent profond. Je désire avoir à moi mes nuits, voilà tout. » Et montant les chevaux qui suivaient au bout de leur longe, les paupières mi-closes, les jarrets gourds, me demande plutôt à ces bêtes. Quand on a peiné tout le jour à défricher de la lande, on n'a plus envie de rien, si ce n'est de sommeil. À qui est le premier au travail, il est permis d'être le premier au lit. « C'est juste, » avait déclaré la veuve d'un ton sec. Alors lui, avec une bonhomie feinte, « D'ailleurs, sois tranquille, ce n'est pas les chefs de veillée qui te manqueront. Tu n'auras que l'embarras du choix. Il t'en viendra de partout, et quel que soit celui que tu désignes, il renvoyera toujours mieux qu'un domestique le fauteuil du maître défunt. Ils arrivaient au portail, elle lui avait tourné les talons sans répondre. L'abstention du charrueur prêta dans les débuts à des commentaires de toutes sortes. Le personnel de la ferme, surtout qui le jalousait, en prit prétexte pour se gausser à ses dépens. Il est devenu trop monsieur, affirmaient les valets de Rebours. Il croirait s'abaisser, voyez-vous, s'il taillait honnêtement du chanvre en notre compagnie. Les servantes, d'esprit plus subtil et de langue plus acérée, insinuaient il y a peut-être pour Emmanuel le dédaigneux des veillées plus intéressantes que celles de Garnaham. Et elle faisait remarquer que depuis le pardon de Saint-Sauveur, il n'était plus le même, ce Prigent. Pour sûr, il devait avoir des chagrins de cœur. Il ne riait plus, il parlait à peine. Le pâtre ne prétendait-il pas l'avoir vu entrer dans la carriole pleine de la somnambule, derrière la fontaine sacrée? Il avait d'ailleurs les yeux qui ne trompent point, les yeux tristes de ceux qui aiment. Il était touché, l'insensible. S'il se retirait, sitôt souper dans son écurie, ce n'était point pour dormir, non, non, mais pour rêver en paix de sa douce, à moins que ce ne suffût pour la rejoindre sournoisement à travers la nuit. Ces commérages des femmes de sa maison agacèrent Onéane, quoi qu'elle fît pour y demeurer indifférente. Si pourtant vous parliez d'autre chose, dit-elle un soir après une irritation mal contenue. Il ne fut plus question du charveur, mais par un revirement singulier, du jour où l'on cessa de s'occuper de lui, il hanta constamment la pensée de la veuve. C'est en vain que les visages nouveaux affluaient à Guéravran, y apportant l'écho des bruits du dehors, la rumeur variée de tous les racontars de la paroisse. Ni l'empressement de tout ce monde, ni les histoires plus ou moins drôles qu'il débitait, n'avaient le don de distraire Renéanne. Elle souriait aux gens sans les voir, écoutait leurs discours sans les entendre. Elle avait plus en tête qu'Emmanuel. Si c'était cependant vrai qu'il l'aimât, et mon Dieu, n'était-il pas libre? Oui, mais pourquoi se cacher d'elle? Pourquoi lui mentir? Et quand il lui avait demandé de veiller avec elle bien gentiment, pourquoi lui avoir point répondu en toute franchise « Excuse-moi, j'ai promis ailleurs » Mentait-il au fait? Elle n'eut plus de repos qu'elle ne s'en fût assurée. Une nuit donc, feignant d'avoir omis une communication d'importance à faire au charrueur, elle prit un fanal, gagna l'écurie qui n'était jamais fermée qu'au loquet, et se coula le long d'un des bas-flancs jusqu'au lit, sorte de couchette primitive dressée à l'aide de quelques planches, sans autre garniture qu'une couette de balle d'avoine sur un morceau de paille, avec des mèches de foin que les râteliers laissaient pendre au-dessus du chevet en guise de courtine. Réveillés de leur somnolence par cette lumière inattendue, les chevaux s'ébrouèrent, mais de rhumement d'homme, il n'y en eut point. Le lit était vide et n'avait pas même été défait. Oh, le misérable! Le misérable! Murmura Renéanne. Une douleur aiguë, lancinante, venait de lui traverser le cœur. Elle eut peur de s'abattre là pour ne se relever plus, et se sauva en courant, suivie du long regard étonné des bêtes. Sur le seuil du manoir, elle s'arrêta, refoula des larmes près de jaillir, et pour donner le change au veilleur, dit d'une voix suffoquée. Ah, c'est extraordinaire ce que la bise pique à 7 heures. J'en ai les paupières bleues et la laine coupée. Il y a certainement de la neige dans le temps. Elle tombait, en effet, à 15 ou 20 nuits de là. Elle tombait par menus flocons serrés, la neige, en ce morne soir de décembre, où la veuve de Constant d'Agorne, sous prétexte de dévotions à remplir aux approches de Noël, avait fait mine de se diriger vers le bourg, vêtue de sa mante de deuil à grande cagoule noire, bordée d'un large ruban de satin. Le ciel était bas et fermé, la terre rigide et d'une pâleur funèbre sous toutes ces ouates blanches qui pleuvaient. Le porche de la cour franchi, René-Anne, au lieu de s'engager dans l'avenue, se glissa dans une antique bâtisse effondrée, débris du four banal de Guernahan aux âges seigneuriaux. Depuis qu'elle avait eu la preuve de ce qu'elle appelait à part soi la trahison du charreur, elle avait résolu de pénétrer le secret de ses fugues nocturnes. Dû l'intempérie achever de briser sa poitrine si délicate, elle s'était jurée de savoir, et elle saurait. Et voici que, tapie en embuscade derrière le four en ruine, elle guettait, et toute grelottante, le passage de cet homme détesté. Car elle le détestait, et oui, que dis-je, elle l'avait en horreur, et c'était bien son intention de le lui crier à la face, pas plus tard que demain, de le lui crier devant tous, et après, de lui montrer la porte. Retournez d'où vous venez, Manuel Brujan. Je sais à qui vous donnez vos soins. Sortez, ma maison n'est pas faite pour des débaucheurs de filles, pour des galvaudeux. Et ces injures mêmes, lui paraissant trop faibles, elle s'ingéniait pour tromper la tante à en imaginer de pires encore. Une ombre se dessina dans l'ombre du porche. C'était lui. René-Anne l'eût reconnu entre 20 autres, rien qu'au souple balancement de sa taille. Elle laissa prendre quelque avance, puis s'élança sans bruit sur ses traces. Afin de mieux amortir ses pas dans la neige, elle avait ôté ses socques, ne gardant que ses chaussons feutrés. Il se trouva qu'elle avait dit juste ce tantôt, en annonçant aux gens de Guernahan qu'elle se rendait au bourg. C'est en effet dans cette direction que l'entraînait Manuel. Jusqu'à ce qu'il eût atteint la voie charretière qui aboutit à la route vicinale, il marcha vite en homme qui ne se soucie pas d'être rencontré, si vite que la fermière, forcée de s'y dissimuler autant que possible dans l'ombre des talus, désespéra presque de le suivre. Heureusement qu'une fois sorti des terres du domaine, il ralentit son allure. Il cheminait sans hâte maintenant, avec un air de crânerie tranquille, en sifflotant un refrain de chambre et a pris du temps qu'il était soldat. Lorsqu'on fut d'entrée dans Saint-Sauveur, René-Anne, à la lueur que projetaient sur la neige les vitres des maisons, s'aperçut qu'il portait à la main un petit paquet noué d'une ficelle, comme en ont les clercs paysans quand ils se rendent aux villes d'études, Tréguier, Plouguernevel ou Saint-Paul. Cette idée d'Emmanuel Prigent, déguisé en clerc et gagnant le collège, ses livres sous le bras, la fit sourire malgré elle. Des livres à lui! Mais qu'en eût-il fait, le pauvre garçon? Ne lui avait-il pas confié naguère qu'au régiment, il était souvent obligé de recourir à des camarades pour déchiffrer les passages douteux des lettres que ses parents lui faisaient écrire par le magistère? C'était même avant les incidents de cet hiver une des rares choses qui la fâchait en lui. Quel dommage, disait-elle parfois d'un ton de gronderie amicale, quel dommage que tu n'aies pas plus de goût à t'instruire. Je suis sûr que ce n'est pas la capacité qui te manque, mais l'ambition et la volonté. À quoi il avait coutume de répondre avec le fatalisme insouciant des hommes de sa race. L'instruction, c'est les blancs n'est bon que pour les maîtres, René Anne. Et bien, d'où donc venait-il de disparaître à l'improviste, le chat-ouveur ? La place de Saint-Sauveur est bordée d'un côté par le cimetière au centre duquel s'écrase parmi les croix des tombes la lourde toiture de l'église que la neige drapait silencieusement d'un fin suaire d'argent mat. Du côté opposé, deux maisons forment saillie. L'une grise et basse avec cette enseigne en lettres noires sur un ruban de chaux blanche. Au rendez-vous des Lurons, café, cidre, liqueur. C'est l'auberge de Jason Thépeau. L'autre massive, ventrue, sans âge et sans style, une clochette de chapelle suspendue à la façade, sous un auvent d'ardoise, c'est l'école communale. Le premier mouvement de René, Anne, fut de jeter un coup d'œil dans l'auberge. Que de stations douloureuses elle avait faites là, devant l'étroite fenêtre aux rideaux de percaline rouge, du temps où, toute jeune épousée, elle tentait de dissiper son mari à cette hideuse maîtresse, tueuse des corps et des âmes, l'eau de vie. Deux ou trois consommateurs jouaient aux cartes autour d'un tapis en loques, mais celui qu'elle frissonnait déjà d'y trouver n'y était point. Elle s'enfonça dans la venelle qui sépare les deux bâtiments, poussa une barrière à claire-voie, fit quelques pas dans la cour sablée sur laquelle s'ouvre la résidence de l'instituteur. De nombreuses empreintes de sabots faisaient sentier à travers la neige récente. Les baies des classes découpaient de larges rectangles de lumière jaunâtre sur le sol. « Ah, c'est vrai !» songea la veuve. « Les écoles du soir sont commencées depuis la Toussaint. » Et une exclamation soudaine s'échappa de ses lèvres. « Mais serait-il Dieu possible qu'il les fréquentât ?» Incrédule encore et soulevé néanmoins, comme par une force surnaturelle d'allégresse et d'espoir, elle se haussa jusqu'à l'une des grandes baies vitrées. Une douzaine d'adolescents, des garçonnets du bourg, de jeunes apprentis auxquels s'étaient joints quelques pastours des fermes les plus rapprochées, s'appliquaient de-ci de-là dans la vaste pièce à écrire sous la dictée du sous-maître dont on voyait la main silhouette étriquée aller venir entre les bancs. Le regard de René Anne ne s'attarda pas sur eux, mais attiré tout de suite par une sorte de magnétisme vers un groupe de deux personnages qui se tenaient debout contre la muraille du fond, les yeux fixés sur le tableau noir où s'alignaient des colonnes de chiffres. Ils tournaient tous deux le dos à la veuve. Mais court rabelé avec ses longues mèches grisonnantes, sur le sommet du crâne, sa calvitie ronde en forme de tonsure sacerdotale, l'instituteur n'était pas facile à méconnaître. Et quant à l'autre, si svelte avec sa maigreur nerveuse, sa droiture élancée de chêneau de haute futaie, comment René Anne ne l'eût-il point nommé, ne fût-ce qu'à la façon désinvolte dont il laissait pendre sur l'épaule sa veste en peau de bique, dans une pose noble et simple, tout ensemble, de Saint Jean-Baptiste adulte. Il appuyait la craie sur le tableau, d'un geste un peu rude, en énonçant à mi-voix les calculs. Et brusquement, il parut à René Anne que les signes qu'il traçait agissaient sur elle comme les formules enchantées d'une mystérieuse cabalistique d'amour. Ses derniers scrupules tombèrent, ses dernières velléités de résistance furent vaincues. Pas un instant elle ne douta qu'Emmanuel n'eût repris le chemin de l'école pour s'élever jusqu'à elle, pour la mériter. Émue aux larmes de ce qu'il y avait de troublant et de fort dans l'hommage secret de cette passion silencieuse, elle s'en revint à pas lents vers le manoir, et cette fois ne craignit point de laisser voir au veilleur de Garnaham qu'elle avait pleuré. Elle dut s'aliter à la suite de cette équipée. On trembla même pour ses jours. Le médecin fut quelque temps sans oser répondre de son salut. Elle seule ne tremblait pas, sûre qu'elle ne mourrait point, qu'elle ne pouvait pas mourir. Un élixir était en elle, plus puissant que toutes les drogues, contre lesquelles les influences malignes de la fièvre étaient incapables de prévaloir. Au premier duvet qui se montra sur les ramilles des saules, elle était sur pied, et son visage refleuri de couleurs saines qui embaumaient le renouveau. Aussitôt commença vers Garnaham la procession des tailleurs, émissaires attitrés des accordailles bretonnes. Ils arrivaient, une gaule blanche en main, une guirlande de lierre entourée autour de leurs chapeaux. C'étaient des parleurs insinuants des déserts. Chacun d'eux vantait à sa manière les mérites de son client, avec force citation de proverbes et de vers de chansons. « Il n'y a qu'un Dieu dans le ciel, René-Anne. Il n'y a non plus qu'une saison pour l'amour. » La veuve souriait, emplissait de cidre mousseux l'écuelle du messager. Ben, « Dis à celui qui vous envoie que les coucous de Garnaon n'ont pas encore chanté. Plus tard, nous verrons. » Et il s'en allait, mi-grognon, mi-content. L'été vint, et avec lui l'anniversaire du trépas du Dagorne. Ces commémorations funèbres sont en Bretagne l'occasion d'agapes solennelles, auxquelles il est d'usage de convoquer non seulement la parenté, mais toutes les personnes qui sont en relation d'amitié ou d'affaires avec la famille du défunt. Un joli matin d'août, pommelé de roses et de lilas, la cour de Garnaham offrit le spectacle d'un champ de foire, couvert de tilburies et de chars à bancs, les brancards en l'air, les chevaux abandonnés à la libre pâture dans les luzernes et les trèfles d'alentour. La grange, transformée en salle de festin, avait peine à contenir les 150 invités qui s'étaient rendus à l'appel de René et Anne. Tout ce monde mangeait ferme et buvait de même. En pareille occurrence, c'est une obligation, un devoir de piété envers le mort. Sur la fin du repas, des servantes entrèrent qui apportaient de l'hydromel dans des jarres. Alors le vieux Guillaumard, qui trônait au haut bout de la table, se leva et fit le signe de la croix. Tous les assistants l'imitèrent en silence. De profundi a te clama, oui. Et il débita tout le psaume avec une espèce de majesté biblique. Puis quand les convives eurent donné les derniers réponds, René-Anne, dit-il, maintenant que l'âme de Constant de Gorne est en paix, je t'adjure de rompre ton veuvage. Demande à ceux qui sont ici présents. Tu aurais tort de t'obstiner dans le deuil. Il n'est pas bon que la place du maître demeure plus longtemps vacante à Garnaham. » La jeune femme articula d'une voix claire. « Mais je n'attendais que ce moment pour vous faire connaître publiquement mon choix. » Elle plongea son verre dans une des jarres d'hydromel, et après l'avoir rapproché de ses lèvres, Elle marcha devant elle à travers la grange. Ils étaient tous là, les prétendants riches qui recherchaient sa main. Et parmi eux, Mengi lui-même, l'homme de la montagne, le fils aîné de Rosvilliou. Elle ne fit mine de le voir, ni lui, ni les autres. Alla droit vers le chauffeur, debout à l'extrémité opposée, dans le groupe des domestiques. Il était blême, ses paupières battaient. « Veux-tu boire après moi ?» prononça-t-elle en lui tendant le verre. Il le saisit d'un geste convulsif, le vida d'un trait et l'ayant retourné, en laissant tomber, comme par manière de libation, la dernière goutte sur le sol. Telles furent les fiançailles de René-Anne Guyomard et d'Emmanuel Prigent.